het even. Alors, David, est-ce que voilà, tu pourrais nous, nous introduire cette thématique création ou évolution? Déjà, mettons-nous d'accord sur les mots. Qu'est-ce qu'on appelle évolution? Qu'est-ce qu'on appelle création? Pour qu'on soit au clair là-dessus.
Alors, l'évolution, c'est une théorie scientifique. Donc, quand on parle dans le monde scientifique de théorie, on ne dit pas qu'il s'agit de quelque chose, c'est pas une invention à l'issue d'un rêve, ou ce n'est pas quelque chose uniquement de supposition, mais c'est un ensemble de recherches, un ensemble de suppositions, certes, d'hypothèses, mais qui sont souvent basées sur des observations extrêmement précises, rigoureuses. Donc la théorie de l'évolution à ce jour, c'est l'une des théories scientifiques les plus étoffées qui existent sur Terre.
D'accord.
Donc on a face à nous, non pas simplement comme malheureusement je l'entends quelquefois, des dires de quelques personnes illuminées qui veulent absolument se tourner de Dieu, mais on a face à nous des gens qui font énormément de recherches et qui ont des arguments contre lesquels, pour le moment, en tant que créationniste, on n'a pas nécessairement, sur le plan en tout cas purement scientifique,
des réponses.
On n'a pas toujours des réponses aux problématiques qu'ils soulèvent.
D'accord.
De l'autre côté, il y a la création. Donc, ce qui est important de savoir concernant la création, c'est que, d'après le texte biblique, il y a trois types de création. Donc, il y a la première création qui est celle la plus courante ou la plus familière lorsqu'on entend le mot, c'est-à-dire la création à partir de rien.
D'accord.
C'est la création du monde, c'est la création des êtres humains, des animaux, c'est la création des plantes, par Dieu dans un temps très court.
D'accord. Six jours,
la deuxième signification du mot création qu'on retrouve dans la Bible, c'est justement cette notion de création qui continue, c'est-à-dire que Dieu ne s'est pas contenté simplement de nous lâcher sur terre et puis ensuite de repartir faire ses affaires. Il reste présent dans nos vies. On a par exemple le psaume 8 où le psalmiste écrit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui ?» Ça veut dire que Dieu est présent dans la vie de l'homme et il continue à agir.
Oui.
On a également dans, par exemple, Apocalypse, ces descriptions des anges qui retiennent les quatre vents pour empêcher certaines catastrophes sur Terre. Donc Dieu est présent dans nos vies, Dieu est présent sur la Terre, et il continue à créer, particulièrement dans le cœur des hommes, les conditions nécessaires pour qu'ils puissent s'ouvrir à lui et l'entendre. Et puis on a la dernière notion de création qu'on retrouve dans la Bible, qui est la plus apocalyptique, qui est justement la création d'une nouvelle Terre, de nouveaux cieux et d'une nouvelle Terre. Et dans cette troisième type de création, on a notamment l'apôtre Paul, se fait l'un des plus grands défenseurs, puisque lorsqu'il défend devant, par exemple, les Corinthiens, et on peut le retrouver dans 1 Corinthiens 15, dans tout le chapitre, où il parle du corps qui est semé corruptible et qui ressuscite incorruptible, là, on a justement l'action divine qui, lorsque Jésus revient, va créer un nouveau corps, une nouvelle terre, de nouveaux cieux, donc tout va être changé.
D'accord.
Et donc, je pense que c'est extrêmement important que l'on garde ces trois notions de création en tête pour la suite, parce que si on touche à l'une de ces créations, nécessairement, on remet en cause les autres créations.
D'accord.
Parce
donc, c'est
que
important.
Si Dieu n'a pas créé tout à l'origine, par conséquent, il ne peut pas continuer à créer aujourd'hui. Il ne peut pas être impliqué dans ma vie, me protéger, changer mon cœur, etc. Et à plus forte raison, il ne peut pas non plus revenir un jour pour pouvoir nous sauver.
D'accord. Alors, donc, du coup, nous sommes confrontés à la théorie de l'évolution, une théorie que donc, nous l'avons vue qui tire ses tenants aboutissants de choses concrètes, de choses physiques, de la géologie, de la physique, de la science, de la chimie, bref. Et face à cela, la création. La question ce soir est, est-ce qu'on peut relier ces deux concepts? Est-ce qu'ils sont antinomiques ou est-ce qu'ils ont un lien? Est-ce qu'ils ne pourront jamais avoir de lien? Et au milieu de tout ça, pourquoi, s'ils n'en ont pas, ils ne peuvent pas avoir de lien?
Alors, aujourd'hui, dans le monde chrétien, à part quelques extrémistes, la plupart acceptent le fait que Dieu est créateur.
D'accord.
La problématique, c'est maintenant comment Dieu a créé. Et pour comprendre cette problématique, il faut savoir que la Bible parle de deux, sinon trois formes de révélation. Donc les deux formes de révélation les plus connues, c'est ce qu'on appelle la révélation spéciale. Donc c'est le texte biblique lui-même.
D'accord.
Par exemple, dans 2 Timothée 3:6, c'est le passage le plus explicite où on nous dit toute écriture est inspirée de Dieu.
D'accord.
Ensuite, on a le deuxième type de révélation, qui est ce qu'on appelle la révélation générale. Et cette révélation générale, c'est la nature. La Bible en parle dans le psaume 19, 1 et 4, par exemple, lorsqu'il dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle les œuvres de ses mains. » Donc ici et dans plusieurs d'autres passages, on nous invite à contempler la nature pour pouvoir justement comprendre la beauté de la création, comprendre la grandeur et la puissance de Dieu en tant que créateur. Et puis, il y a ce que moi, je rajoute comme étant la troisième type de révélation, qui est la communauté des croyants, ou alors une révélation communautaire. Et on peut retrouver ça dans la Bible, par exemple, dans Hébreux 10, 24 à 25, où on nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres, etc. » Et n'abandonnons pas nos assemblées. C'est-à-dire que quand on recoupe ça avec l'enseignement de Jésus qu'on retrouve notamment dans Matthieu 5 ou Matthieu 10, où on a les béatitudes par exemple, où on a l'importance qui est mise sur le fait que si quelqu'un nous prend un manteau, on lui donne aussi sa chemise, etc. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on ne comprend de Dieu que si concrètement on le met en pratique
et qu'on est
en étant charitable avec nos frères et nos sœurs.
D'accord.
Et donc ça, ce sont les trois types de révélations auquel un croyant peut avoir à faire face.
D'accord.
Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que il semble y avoir une contradiction entre la révélation spéciale, qui est la Bible,
oui,
et puis la révélation générale, la nature.
D'accord.
Et cette contradiction vient particulièrement du fait de la manière dont certains vont considérer le texte biblique et la manière dont certains vont considérer l'outil qui est la science, qui étudie la nature. Donc, d'un côté, on a la science qui est un outil d'étude, qui par définition n'étudie que ce qui est naturel, visible, manipulable, observable.
Quantifiable, oui.
Or, de notre côté, on a la Bible qui nous dit que elle n'est pas un manuel de science, mais elle est une révélation spirituelle, éthique, sociale, qui révèle la place de Dieu vis-à-vis de l'homme, ou de l'homme vis-à-vis de Dieu plutôt, et qui nous dit que, en plus de ce que nous pouvons voir, il existe un monde surnaturel.
D'accord.
Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, on retrouve dans Hébreux 11, verset 3,
on
où on nous dit « Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par une parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne vient pas de ce qui est manifeste. » C'est-à-dire que ce qui nous entoure et qu'on peut manipuler, c'est-à-dire la matière,
oui,
n'est pas l'alpha et l'oméga de notre existence, c'est Dieu.
D'accord.
Or, quand on recoupe les deux, mais qu'on veut utiliser la science qui ne s'applique qu'au monde naturel et qu'on veut absolument l'appliquer à des choses que la Bible dit, or la Bible, son but premier n'est pas de nous donner un manuel de science avec plein de chiffres, avec plein de coefficients dessus,
oui,
mais son but c'est de nous dire, voilà, Dieu existe, Dieu se manifeste dans la vie des hommes, et des hommes qui ont été témoins de cette manifestation ont écrit des textes qui nous sont parvenus. Donc du coup, lorsque on veut utiliser l'un pour pouvoir aller dans le domaine de l'autre, on se retrouve face à des contradictions, on se retrouve face à des problèmes d'interprétation, et c'est sur ces problèmes-là que justement la plupart des chrétiens, enfin en tout cas de plus en plus de chrétiens aujourd'hui, c'est sur ces problématiques-là qu'ils chutent. Donc, si j'ai dit au départ qu'effectivement très peu de chrétiens remettent en cause le fait que Dieu est créateur,
c'est la façon qui est mise en cause.
Mais puisque dans la, par la science, j'observe des choses qui semblent contredire le texte biblique, or, vu que la Bible me dit que la science ou l'étude de l'observation de la nature est également une révélation, il faut alors absolument que je trouve un moyen de réconcilier,
les deux.
La science avec la Bible.
D'accord.
Et si aujourd'hui, je vois que la science dit des choses qui semblent contraires à la Bible, Alors, je suis face à un mur et il me faut trouver un moyen de passer par-dessus le mur.
Oui.
Donc, certains vont dire, bon, ben, c'est que forcément la science se trompe de A à Z.
Oui.
D'autres vont dire, bon, ben, ça veut dire que c'est la Bible qui se trompe, parce que, ben, après tout, à l'époque, ils n'avaient pas les outils scientifiques. Donc, peut-être que Dieu, en fait, est un Dieu un peu gentil, qui a, comment dire, qui n'a pas trop, qui s'est pas trop préoccupé de l'ignorance de ces hommes-là, mais qui leur a laissé croire un peu ce qu'ils voulaient, parce que l'important était ailleurs.
Oui.
Bon, aucune de ces deux interprétations ne me satisfait, ne me satisfont, donc du coup je préfère m'en tenir, et je pense que c'est avant tout la priorité de ce soir, sur comprendre avant tout, et avant d'entrer dans les textes, dans le détail, etc., c'est comprendre qu'est-ce que la Bible me fait passer réellement comme message lorsqu'elle me dit que Dieu m'a créé.
D'accord. Alors du coup,
donc,
que nous dit la Bible à ce niveau-là ?
Il y a au moins 4 messages.
Oui.
Voilà. Donc je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, mais je pense qu'il y en a au moins 4.
D'accord. Et en fait, ces messages-là nous permettent de comprendre, si tu me dis si j'anticipe trop, mais ce message que tu vas nous expliquer nous permet de comprendre finalement le danger de la théorie de l'évolution. C'est ça que tu es en train de nous dire, c'est ça ?
Telle qu'elle est, la théorie de l'évolution telle qu'elle est
enseignée,
comment dire, telle qu'on essaie de la faire entrer dans l'Église et telle qu'on essaye de nous la présenter, selon moi, n'est pas compatible avec le message biblique.
D'accord. Alors, dis-nous en plus.
Le message biblique me parle d'une création de la Genèse à l'Apocalypse. Et d'ailleurs, le message de l'Apocalypse, par exemple, nous dit adorer celui qui a créé les cieux et la terre, etc. Donc tout le regard de l'humain est tourné à chaque fois sur la création. Paul en parle, Jésus en parle, au commencement, Dieu les fit hommes et femmes, etc.
Mm-hmm.
Donc tout le message de la Bible, et d'ailleurs, il n'y a quasiment pas un seul livre biblique dans lequel, à un moment ou à un autre, on ne précise pas que Dieu est créateur.
Oui.
Donc maintenant, certains vont dire, ben oui, mais Dieu a créé le Big Bang. Et puis, il a donné, en gros, à l'évolution, le soin de nous babysitter jusqu'à ce qu'on puisse être mature ou jusqu'à ce qu'on puisse arriver à l'état dans lequel on est.
D'accord.
Donc, avant d'aborder cette question, qui est extrêmement pertinente, moi, je retiens 4 choses de la création. La première, c'est que, à travers la création, Dieu me dit qu'il est tout-puissant. Après, il pourrait créer en 6 secondes comme en 6 jours, vu qu'à la base, il est aussi créateur du temps, il fait ce qu'il veut.
Mmh.
Donc, s'il décide de créer en 6 jours, que m'importe. Deuxièmement, c'est que justement, cette création, c'est la preuve de sa toute-puissance. Donc, à partir du moment que je commence à essayer de faire entrer cette création dans les petites boîtes de la science, bah, du coup, j'enlève à Dieu sa toute-puissance.
Mmh.
Et troisièmement, c'est que volontairement, Dieu a choisi de me priver de certaines connaissances. C'est-à-dire qu'il me dit « je suis Dieu » et toi, tu es toi, et même si tu crées à mon image, tu n'es pas Dieu. Comment je le sais ? C'est que l'homme est créé en dernier, et lorsque Dieu va créer la femme, il endort l'homme, donc à aucun moment l'homme n'est conscient durant cet acte de création. Donc on est face à quelque chose qui est un acte divin, où Dieu dit « cet acte, c'est que moi qui peux le faire.
Oui.
Et donc, toi, c'est un domaine dans lequel tu n'as pas à mettre ton nez.
D'accord.
Et puis, quatrièmement, pour moi le plus important en tout cas, c'est que parce que Dieu est créateur, parce qu'il m'a créé, par conséquent, il est le seul à pouvoir, entre guillemets, assurer la maintenance.
Oui.
Ça veut dire qu'il est le seul à pouvoir continuer à créer en moi de bons sentiments, un cœur pur, etc. Et il est le seul à pouvoir recréer un jour en moi également un nouveau corps qui ne sera plus soumis à la maladie, etc.
D'accord, c'est intéressant ça. D'accord.
Donc, par rapport au problème que soulèvent les chrétiens qui disent « ben oui, Dieu a très bien pu créer le Big Bang, et puis ensuite le Big Bang est devenu le babysitter de l'humanité avec des millions d'années durant lesquelles... on est passé d'être de plus en plus complexe pour finir en étant des êtres humains.
Sous-entendu que les 6 jours littéraux seraient en fait des millions d'années.
Excuse-moi ?
Sous-entendu que derrière la création dont on dit en 6 jours, ce ne serait pas 6 jours littéraux, mais des millions d'années.
Voilà.
Okay.
Donc premièrement, encore une fois, d'un point de vue humain, personne ne peut dire combien de temps c'était, puisque personne n'était là.
Oui.
Ensuite, même ceux qui y étaient, donc Adam et Ève, n'ont pas assisté à leur propre création.
Oui.
Donc même eux ne pourraient pas dire comment ils ont été créés. La seule chose qu'ils pourraient dire, c'est accepter par la foi et la confiance que Dieu, leur créateur, leur père, notre père à tous, leur ont dit.
D'accord.
Donc ça, je pense que c'est un élément qui est important, parce qu'autrement, on a tendance à faire preuve, selon moi en tout cas, de manque d'humilité, et on rentre dans des choses, dans des combats, dans des débats qui n'ont pas lieu d'être.
Oui.
Maintenant, sur le plan du message que Dieu fait passer, du message que la Bible fait passer, et il ne faut pas oublier que derrière tout cela, le grand combat qui existe entre le bien et le mal, c'est une accusation sur Dieu que Dieu n'est pas un Dieu bon. Donc, la question que je pose à un chrétien qui me dit « Moi, je crois en Dieu, je fais confiance en Dieu, je crois en Jésus, mais je crois en l'évolution », c'est que penser d'un Dieu qui utilise l'une des méthodes les plus cruelles et les moins efficaces au monde pour créer l'humanité, qui serait sur des millions et des millions d'années, laisser des êtres vivants, qu'ils soient des microbes, des animaux et ensuite des hommes, souffrir, subir les aléas de la nature déchaînée, des tempêtes, des météorites et de toutes sortes d'autres choses, du cancer, des maladies, des handicaps, tout ça pour un jour atteindre un homme où Dieu va dire bah oui, bah lui, de toute la chaîne, c'est lui qui me ressemble. Comment comprendre que Dieu utiliserait un tel processus? D'accord. Et quand on sait ce que c'est que l'évolution avec la survie du plus fort sur le plus faible, où c'est le plus fort qui mange l'autre, où il y a des insectes qui vont pondre leurs œufs dans le corps d'autres animaux, et donc quand les œufs éclosent, ce sont des bébés qui vont manger l'animal de l'intérieur pour se nourrir et grandir, etc.
Oui.
Donc comment penser ou que penser d'un Dieu qui utiliserait ce genre de procédé pour pouvoir créer des êtres à son image?
À son image, oui.
Or, là est toute la question. Comment se considérer nous en tant qu'humains comme étant créés à l'image de Dieu ou comme étant appelés à représenter Dieu sur Terre, comme étant, comme partageant cette capacité d'être à la ressemblance à l'image de Dieu, alors qu'on descendrait d'une histoire qui serait entachée par une telle violence?
Oui.
Et ensuite, la Bible nous dit quoi? Que Jésus, qui est Dieu, viendrait s'incarner dans les êtres humains que nous sommes, donc finalement les animaux, les quelque peu évolués que nous sommes, pour pouvoir ensuite nous expliquer que non, en fait, les millions et les millions et les millions d'années de violence et de souffrance qu'on a connues ne sont pas des choses qui font partie de son plan, et qu'il nous appelle subitement à devenir des êtres pacifiques, des êtres doucereux, des êtres béats, joie de la harpe, alors qu'on provient de millions d'années où notre ADN et notre génétique seraient ancrés dans la violence. Ça ne fait aucun sens.
Oui.
Comment ensuite Dieu pourrait nous accuser, nous humains, d'être des gens violents si la violence est le processus et l'outil qu'il a utilisé pour pouvoir nous créer?
D'accord.
Donc au final, c'est quelque chose qui, pour moi, voilà, j'essaye vraiment de comprendre comment certaines personnes peuvent réconcilier
les deux,
foi en Dieu avec évolution, mais j'avoue que j'arrive pas à comprendre malgré mes plus grands efforts.
D'accord. Et donc du coup, on voit un processus, donc l'évolution remplie de, comme tu disais, de dureté pour arriver au processus créatif versus un processus plein d'amour. J'ai noté vraiment le côté où, ben, finalement, aucun homme n'a jamais assisté à la création telle qu'on l'entend, puisque, comme tu disais, même lorsque Dieu fait la femme, il endort l'homme. On pourrait se poser la question. Et du coup, ce soir, qu'est-ce qu'on pourrait finalement se dire? Parce que je suis un jeune. J'essaie de concilier tout ça dans ma tête. Toute ma vie, on m'a inculqué l'évolution à l'école. J'arrive dans ma Bible, à l'église, on me parle de 6 jours de création. Est-ce que je dois voilà la réflexion que je me porte souvent, c'est Dieu m'a pourvu d'intelligence, d'accord? Donc, il m'a fourni des outils pour approfondir, chercher, etc. Maintenant, où doit s'arrêter, où commence et où s'arrête mon intelligence? C'est-à-dire, est-ce que je dois à tout prix comprendre? Parce que finalement, on a aussi en nous, en tant qu'humain, cette envie d'aller au fond des choses, cette curiosité d'aller au fond des choses. Est-ce qu'elle doit s'arrêter net à un moment? Et si elle s'arrête net, comment est-ce qu'on appelle cela? Et voilà, comment finalement s'arrêter net? Est-ce qu'il faut s'arrêter net? Et comment s'arrêter net? Enfin, est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire?
La démarche scientifique, c'est de dire que tout ce qui m'entoure, j'ai les moyens de le comprendre en l'observant.
D'accord.
Et donc, par conséquent, j'arrive à un moment donné où je bute, mais derrière cette démarche scientifique, il y a ensuite deux philosophies. Il y a ce qu'on appelle les scientistes, qui sont des personnes qui sont persuadées qu'il ne peut exister aucun Dieu, et qu'il n'existe aucun Dieu, et qui militent pour la destruction de toutes les religions. Et donc, ces scientistes sont des personnes qui te disent, avant même de commencer une expérimentation, on part du principe que Dieu n'existe pas.
D'accord.
Ce qui, en soi, est une attitude extrêmement anti-scientifique. Puisque le vrai scientifique reste ouvert à toutes les possibilités.
Exact.
Et doit pouvoir prendre en compte toutes les possibilités dans ses analyses. De l'autre côté, il y a le croyant, qui dit, certes, je peux observer ce qui m'entoure, mais il y a des choses que je ne pourrais pas observer moi-même. Ça veut dire que, moi, David Millard, à aucun moment, je ne peux observer ma naissance.
Effectivement.
Donc, on peut me montrer des photos, on peut me montrer des vidéos même, on peut me le raconter, mais à aucun moment, je ne peux, de mes propres yeux, revenir et observer le moment où je suis né. L'humanité, c'est pareil. Il faut qu'on comprenne qu'il y a, à un moment donné, des choses qui nous échappent. Donc ces choses qui nous échappent, c'est pas simplement de dire « Ah ben j'arrête de réfléchir parce que ça me prend la tête et que j'ai l'impression que ce que je découvre est contraire à ce que la Bible dit. » C'est simplement avoir cette humilité de dire « Ok, là dans tel domaine, je ne sais pas. » Or, que répondent les scientistes? Parce qu'eux aussi, ils ont des choses auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Donc ils disent
« Ben
nous ne savons pas, mais un jour on saura.
Oui. »
Et le croyant, il dit la même chose. On ne sait pas, mais un jour on saura. La différence, c'est que le scientiste fait confiance à lui-même et dans sa capacité de se fouiller tellement la tête qu'il va se rappeler un jour comment il est né. Et le croyant fait confiance à Dieu qui un jour va lui montrer comment il est né. Donc finalement, ultimement, le scientiste et le croyant veulent la même chose et vont dans la même direction. C'est simplement les outils qu'ils utilisent pour y parvenir ne sont pas pareils. Parce qu'il y en a un qui refuse d'accepter la possibilité, l'éventualité qu'il puisse exister un monde surnaturel, c'est la base même de la démarche scientifique. Et il y en a un autre qui dit, moi aussi j'observe, parce que la Bible elle-même nous invite à observer. Job, lorsqu'il est en communication avec Dieu, Dieu lui invite à observer le monde qui l'entoure. Regarder la fourmi, regarder les animaux, etc. Mais le croyant accepte le fait que certaines des choses qu'il observe ont des causes qu'il n'est pas en mesure d'étudier. Et cette cause, c'est Dieu.
D'accord. C'est vraiment très très intéressant ces éléments, ces outils que tu nous donnes, David. Pour préparer cette émission, j'ai partagé avec toi aussi mes préoccupations, mes questionnements fondamentaux quotidiens. Et ça en fait partie. Ça en fait partie parce que, bon, voilà, pour ceux qui écoutent souvent, vous le savez, j'ai grandi avec cette curiosité pour la science. Et ce soir, tu nous as vraiment fourni des outils pertinents, je trouve. En tout cas, des arguments pertinents, voilà. Pour vraiment comprendre que la Bible n'est pas justement ce livre scientifique qu'on voudrait qu'il soit. Et dans de prochains moments de réflexion et de partage, on va aller un petit peu plus loin. On en a discuté ensemble concernant le texte de Genèse 1 et de Genèse 2. Et voilà, j'en dis pas plus parce que pour ne pas faire de spoil, mais c'est vrai que cette réflexion est importante parce que à un moment donné de ma vie, ça a failli faire tout basculer justement. Parce que, comme je disais au début, si on remet en question la création, on remet en question le sabbat. Si on remet en question le sabbat, on remet en question beaucoup de choses par la suite dans la Bible. Et puis voilà, c'est un cercle sans fin et on peut se retrouver du jour au lendemain. Vraiment, mais je vous dis très sincèrement, chers amis, auditeurs qui nous écoutez, on peut se retrouver dans une position où on vient tous les jours à l'église, mais on ne croit pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en quoi croire. On vient parce qu'on a été éduqué dans ça, et puis on est dans ce processus, mais finalement, on n'a plus cette foi ferme en Dieu. Et j'avais partagé cela lors d'une émission précédente. Un jour, je tombe sur un chant pour enfants et qui dit les paroles étaient « Je ne sais pas comment, mais ce n'est pas important. L'important, c'est que je crois. » Et ce chant m'a... Je suis resté bouche bée, en fait, parce que c'est un chant pour enfants. Et ce jour-là, ça a été la réponse de Dieu à mes prières. Et ce soir, tu nous apportes d'autres éléments. Alors, William voulait faire une petite intervention.
Oui, Michael, qui ajoute un commentaire en disant... la réflexion de ce soir est passionnante, dit-elle. Merci pour ce sujet. Et elle dit, je ne peux m'empêcher de penser à ce texte qui se trouve dans Proverbe 1 au verset 7 et qui dit, la crainte du Seigneur est le principe du savoir, sagesse et éducation, seuls les fous s'en moquent. Donc je reprends la traduction de Michael que vous connaissez. La crainte de l'Éternel est le commencement
de la sagesse,
de la science.
Voilà, alors je rappelle à nos amis auditeurs que cette émission est interactive au 07 68 08 46 44. Si vous êtes sur le live Facebook aussi, vous pouvez envoyer, si vous avez des questions, là tout de suite, et il ne nous reste pas beaucoup de temps pour ce moment de réflexion. Alors rapidement, composez votre message, votre question, et voilà, nous allons tenter d'y répondre. Et si ce n'est pas possible, bien sûr, David, ne te sens pas bloqué contre
durant
le...
Durant que, justement, les auditeurs composent leurs questions, oui. J'aimerais justement dire ceci, c'est que au final, cette notion, cette question de la création, c'est le plus beau message que Dieu a pour nous. C'est le plus beau message d'amour que Dieu a pour nous.
Oui.
On vit dans un monde où chacun... pense qu'il est spécial. Chacun pense que ses droits sont aussi, au moins aussi importants que celui de l'autre à côté de lui. Mais personne ne nous explique pourquoi. Lorsqu'on va dans la nature, je ne connais personne qui organise des manifestations dans la savane africaine avec des pancartes contre la cruauté des lions.
Oui.
Je connais personne qui moralise son chat parce que il est allé jouer avec la souris avant de la croquer. Je veux dire, on comprend que le monde animal est régi par des lois, que ces lois sont souvent pas forcément très justes, et du coup, si l'homme est un animal, pourquoi à ce moment-là on devrait s'offusquer du fait que, en plus, un animal qui parvient à son état d'homme, comme tous les autres animaux par le processus de sélection naturelle, à ce moment-là, pourquoi s'offusquer quand des hommes en tuent d'autres, quand des hommes volent d'autres, quand des hommes violent d'autres? Pourquoi s'offusquer de ces choses-là, puisqu'on ne fait que, finalement, ce qui est naturel? Ça, c'est le regard de la personne qui croit en l'évolution. Et je ne comprends pas comment, aujourd'hui, dans nos sociétés qui croient en l'évolution, on s'offusque de la violence omniprésente de nos sociétés. Parce que le croyant, par rapport à cette violence, ce qu'il dit, c'est que oui, la nature a des exemples extrêmement contre-productifs de l'amour de Dieu, extrêmement cruels. Mais ces exemples sont là pour nous rappeler que justement la nature, comme l'homme, est en déchéance, et comme dit Paul, soupire après ce jour où Jésus reviendra. Donc, pourquoi je suis spécial? Et pourquoi je suis spécial au moins autant que mon voisin? C'est parce que et mon voisin et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et mon voisin et moi, nous sommes les porte-étendards qui portons l'image de Dieu. Donc quand je fais violence à mon voisin, quand je tue mon voisin, quand je vole mon voisin, quand je viole mon voisin, quand je fais du mal à mon voisin, je fais du mal à une image de Dieu. Et par conséquent, c'est pour ça que le croyant est appelé à faire du bien, que ce soit envers son frère croyant, mais même envers son ennemi. quand Jésus dit « aimez ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent », c'est parce que Dieu nous dit que nous n'avons pas l'autorité sur cette terre de porter atteinte au bien-être de quelqu'un qui est également créé à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que le jugement auquel nous, adventistes, on croit autant, est important. Parce que le dire que Dieu seul juge, c'est vraiment dire que Dieu, qui est l'origine de notre image, a la seule autorité de nous enlever la vie, ou a la seule autorité de nous juger. Et ça, pour avoir regardé aux alentours ce qui se dit, je peux affirmer que le récit de la création tel qu'il est présenté dans la Bible chrétienne est le seul qui fournisse une telle égalité, qui fournisse un tel message d'espérance et d'amour pour l'homme aujourd'hui. Parce que si beaucoup de philosophies nous prêchent l'amour, si beaucoup de philosophies nous prêchent le bien-être, etc., aucune ne peut expliquer pourquoi je dois me soucier de mon frère. Oui. Et c'est pas pour rien que, par exemple, si on va en Asie, on estime que si tu es né pauvre, c'est que tu es puni par le karma, oui. Et que par conséquent, tu vas rester pauvre toute ta vie, et on s'en fiche de toi.
Exactement.
Donc, cette création, qui est passée, présente et future, est probablement la chose la plus importante que Dieu puisse dire à ses enfants, qui est que nous sommes façonnés dans l'amour, nous sommes conçus dans sa préscience, nous ne sommes pas juste du hasard, des accidents, des handicaps de la vie pour d'autres, mais nous sommes chacun précieux. Parce que, en dépit du péché, Dieu choisit, et c'est pour moi c'est le message d'amour qui est le plus beau, c'est que Dieu choisit, en dépit de mon état de pécheur, de continuer à me donner la mission de porter son image. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai entendue. Et aucune autre religion, aucune autre philosophie ne peut entrer en compétition avec ce message chrétien.
Amen. Amen. C'est vraiment... Ben voilà, on est arrivé vraiment au cœur de ce qu'on voulait partager ce soir, c'est-à-dire le message d'amour qui se cache derrière la création. Finalement, ce qui est fondamental à comprendre, et finalement, peut-être qu'en passant beaucoup de temps à essayer de chercher le petit détail qui va nous permettre de comprendre scientifiquement les choses, peut-être qu'en investissant ce temps à comprendre l'amour de Dieu, ce serait du temps peut-être un peu mieux utilisé.
Tout à fait.
Alors, amis auditeurs, est-ce que nous avons reçu des questions, William, par SMS, par MMS? Non. Il me fait signe que non. Très bien. Alors, en tout cas, c'est que, en tous les cas, ce petit moment d'échange a été fluide, que vous avez tout compris. J'espère que c'est le cas, en tout cas. Vraiment, on ne peut que te remercier, David, pour ces pistes de réflexion.
C'est moi qui vous remercie.
Ben, en tout cas, je sais pas, William, si pour toi, ce moment a été instructif.
Oui, pour revoir la création avec un nouvel angle de vue. Donc, alors David a donné beaucoup d'informations. Alors, oui. Je le rappelle, l'émission sera disponible en replay. Donc, si vous voulez réécouter, reprendre les références bibliques, parce qu'il y a vraiment des points très intéressants à revoir. Et puis surtout, revoir l'amour de Dieu pour
qui est au
moi.
Centre de tout ça.
Exactement. Pour vous, dans la création, c'est énorme.
Voilà. Alors, David...
Tout le message chrétien qui oui. tient à ça. Jésus, croire que Jésus peut mourir et ressusciter et ne pas croire à la création, par exemple, pour moi encore, c'est un non-sens.
Oui.
Parce que c'est pas plus scientifique qu'un homme, un Dieu qui s'incarne en homme, qui meurt et qui se ressuscite lui-même, que de croire qu'un Dieu peut créer et puis qu'il peut créer sans avoir besoin d'attendre des millions d'années.
Effectivement. En tout cas,
finalement, c'est le caractère de Dieu, l'identité de Dieu, qui est au cœur de cette question.
Exactement. Et nous allons, comme je le disais, l'approfondir dans une prochaine émission. Donc, restez à l'écoute. Nous allons nous dirons la date bientôt. Quoi qu'il en soit, David, nous ne pouvons pas nous laisser sans demander à Dieu justement de nous guider par son esprit, parce que voilà, des cheminements de pensée. Peuvent vite fait nous éloigner de ce qui est important, en fait. Et donc, si tu veux bien nous mener en prière, David, pour que l'Esprit de Dieu, voilà, puisse nous guider au quotidien, à travers sa parole, à travers ses réflexions, ses échanges, comprendre son amour, comprendre ce magnifique sacrifice qu'il a fait à la croix, pourquoi il l'a fait et l'importance que j'ai à ses yeux. Alors, je te laisse cette opportunité. David ?
Allô ?
Oui, c'est à toi du coup.
Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu tout-puissant et tu es un Dieu d'amour. Nous te remercions parce que tu as créé ce moment si précieux, si spécial, ce moment d'échange, ce moment de partage, ce moment de communion avec toi, où tu nous rappelles, Seigneur, que tu veux être présent. Et c'est certainement là la plus grande création. La plus grande création, Seigneur, c'est cette communication, c'est cette relation que nous avons avec toi. Et nous voulons, en ce sabbat, célébrer, fêter, louer, chanter, à quel point tu es bon, à quel point tu es grand. Et nous voulons te dire merci de nous avoir donné la vie. Merci de continuer à créer en nous des êtres capables de te ressembler, c'est-à-dire de manifester du bien, manifester de la compassion et manifester tous les bons caractères qui sont en toi. Merci Seigneur pour ce Saint-Sabbat. Amen.
Amen. Merci beaucoup David, nous te remercions et au nom de tous les auditeurs qui, je le crois, ont apprécié et se manifestent d'ailleurs dans ce sens. Nous voulons vraiment te remercier pour cette intervention.
Merci pour votre invitation. Je souhaite à tous un très bon sabbat.
Nous te souhaitons
aussi. Je vous souhaite de goûter aux bénédictions que le Seigneur a en réserve pour chacun d'entre nous.
Merci beaucoup, David. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Et ben, rendez-vous bientôt pour une prochaine émission, si Dieu veut.
Bonne soirée, bon sabbat.
Bonne soirée à toi.